Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, édition du 24 octobre 2020. Germain, bonjour.
Bonjour Antoine.
Je suis triste aujourd'hui.
Pourquoi tu es triste?
Parce que j'ai dû aller remiser quelques-unes de mes voitures. L'hiver s'en vient.
Bien, le timing est bon parce que j'ai fait la même chose cette semaine.
Ça commence, hein?
Le gros Newport est à l'intérieur pour l'hiver.
Moi, j'ai serré la petite Pulsar, serré le GTO.
Ça prend un peu moins de place.
C'est ça, ça prend moins de place, c'est sûr. Ouais, exactement. Bon, quelques actualités. Écoute, La première nouvelle que tu vas nous lancer aujourd'hui, je savais que ça arrivait, tu sais, j'avais eu des informations à ce niveau-là, on s'en était parlé, toi et moi, mais comme tu as réussi à dénicher l'information, la confirmation de cette nouvelle-là provenant d'un concessionnaire, ben là, il n'y a plus d'embargo qui tienne, alors tu t'es lâché lousse.
Voilà, donc il y a...
En même temps, c'est pas...
C'est pas la nouvelle de l'année,
on
le sait bien, mais de l'annoncer avant que Nissan nous l'annonce, ben c'est toujours agréable. Donc, Nissan qui ajoute une boîte manuelle pour la Sentra en version SR à partir de 2021. Parce qu'on se rappelle que pour chacune des versions de la Sentra, à l'exception du modèle d'entrée de gamme, la S, ben on avait une boîte CVT. Donc, autrement dit, on pouvait pas avoir un modèle équipé convenablement et une boîte manuelle, fallait avoir le modèle tout nu. Mais là, on a corrigé le tir pour 2021 et ça m'étonne quand même parce que aux États-Unis, ils n'ont pas la boîte manuelle du tout.
Non.
Donc c'est vraiment un modèle qui est adapté pour le Canada.
Puis je peux te dire à ce niveau-là que je suis quand même un petit peu fier parce que cette décision-là a été prise suite à une discussion que j'ai eue avec Steve Millette de chez Nissan Canada. Lorsqu'on a lancé la nouvelle Sentra et qu'on nous a annoncé qu'il y aurait une boîte manuelle, mais que dans la version de base qui n'a pas de siège chauffant système Apple CarPlay.
C'est le minimum d'équipement que le consommateur moyen veut avoir en 2020. Là.
Ben, moi, j'ai dit aux gens, vous faites l'erreur de penser que quelqu'un qui aujourd'hui veut se procurer une voiture à boîte manuelle est quelqu'un qui veut économiser.
Je pense que ça a déjà été le cas auparavant.
Oui, mais c'est plus vrai aujourd'hui. Et tu vois, on annonçait cette semaine que l'Elantra de base et uniquement de base serait disponible en 2021 avec la manuelle dans une version dénudée.
C'était mon prochain sujet d'actualité.
On en parlera un peu plus tard, mais je trouve qu'Hyundai fait une erreur aussi parce que la clientèle de niche, on peut appeler ça comme ça aujourd'hui, qui veut encore une boîte manuelle, elle ne veut pas nécessairement un équipement minimaliste, elle veut avoir un bon rapport équipement-prix et des fois, on veut avoir quelque chose de peut-être un peu plus sportif que la moyenne. Alors, je trouvais ça juste logique qu'on aille greffer une boîte manuelle à la version SR qui se veut esthétiquement un peu plus sportive que les autres versions de la Sentra.
Alors, mais c'est le même moteur, là.
Il n'y a rien qui change, là. On ne joue même pas avec les suspensions, rien. On fait juste ajouter la boîte manuelle dans la version SR et on la conserve aussi dans la version de base. Donc, il y aura deux options de boîte manuelle, ce qui est un peu à contre-courant, on s'entend, parce que Honda a abandonné les boîtes manuelles dans la Civic. Là, on le sait, ça reviendra peut-être pour la nouvelle génération. Il y a plusieurs joueurs là, qui n'offrent plus grand-chose en manuel dans ce segment-là. Alors, Nissan, il va un peu à contre-courant. Il ne le fait pas d'ailleurs qu'avec la Sentra, puisqu'on arrivera d'ici quelques semaines à peine avec la berline Versa, qui sera
plus
la...
C'est tard d'arriver, elle aussi. Là. Elle se fait attendre. Là.
Un peu comme le Rogue, c'est-à-dire que le Rogue,
Tout
a été décalé. Les Rogue S et SV vont arriver quelque part fin novembre, début décembre chez les concessionnaires et les versions Platinum plus luxueuses arrivent le mois prochain. C'est retardé. Là. Nissan aurait aimé ça les avoir d'avance et je pense que c'est la même chose pour la Versa qui vient en quelque sorte remplacer la Micra.
Ouais.
Mais c'est une berline, ce qui est un peu à contre-courant parce que le marché de la sous-compacte, non seulement fond à vue d'œil, mais ce qui pognait un peu dans les sous-compacts au Québec, ça restait des voitures à hatchback et là on arrive avec une berline parce que c'est tout ce qu'on avait dans le catalogue de Nissan. Mais je pense qu'on va aller chercher une clientèle.
Ben, il n'y en a plus.
Il n'y en a plus. Fait qu'on va aller s'accaparer.
On s'entend, là, le Mirage, c'est pas tout le monde qui veut acheter ça, là.
Non, on s'entend là-dessus. Puis de toute façon, voilà. Mirage berline, ça n'existe plus. En fait, la seule autre berline qui existe cette année, c'est la Rio. Et elle disparaît, elle aussi, en berline. Ne restera que la version hatchback en 2021. Alors, ça serait intéressant de voir ça.
C'est pas un gros marché, mais quand on est le seul joueur, là, pourquoi pas?
Ben exactement. Alors, Hyundai Elantra, maintenant, on a annoncé les prix.
Oui, exactement. Donc, une hausse là, de 700 quelques dollars par rapport à l'année passée. On est à 17 899 $ Mais comme tu l'as mentionné, c'est une version en boîte manuelle. La seule version qui peut être équipée d'une boîte manuelle. Donc,
De base.
Là, donc, peut-être probablement pas le modèle à grand volume.
Non.
Mais si on veut une boîte là, à variation continue, on tombe là, sous la barre des 20 000 $ Et
je trouvais ça intéressant parce que je regardais le catalogue. Il y a quand même une panoplie de versions disponibles avec le moteur 2 litres et la boîte IVT. Ensuite, on passe à une version N à moteur turbo compressé qui, elle, a droit à une boîte double embrayage.
Il n'y a pas de manuel. Et là, on est à 27 500 $ là.
Mais l'Elantra Sport, berline Sport, avait droit à une boîte manuelle dans le passé. On l'a éliminé. C'est que la boîte double embrayage. Et on greffe.
Il n'y a plus de version à haillons, là, évidemment, la version GT.
Non plus. Tout ça, alors ça, disparu, c'est disparu.
Et la grande nouvelle, c'est l'ajout de la version hybride.
Voilà.
Donc, qui est une miette moins chère que la Corolla hybride. On est à 24 699 $ J'ai hâte de la voir. J'ai hâte de la conduire, la version hybride. On a conduit brièvement la version à moteur 2 litres. La version hybride a vraiment piqué ma curiosité.
Absolument, d'autant plus qu'elle aussi est équipée d'une boîte double embrayage, non pas d'une CVT.
Oui,
ça va être le fun.
Mais avec 6 rapports au lieu de 7, comparativement au moteur turbo.
On va vivre avec.
Oui.
Il y a eu une annonce cette semaine aussi qui m'a frappé et évidemment, ça m'amène à m'interroger encore plus sur le succès de la marque Polestar, c'est l'arrivée du Volvo XC40 Recharge qui utilise exactement la même technologie que la Polestar 2.
Oui, exactement. Et cette semaine, on est arrivé avec le prix. Hein. Bon, vous allez dire qu'on en parle beaucoup de chiffres cette semaine, mais ça tombe comme ça. Et c'est ça. Le Volvo XC40 en version 100% électrique affiche un prix de vente de 64 950 $ Et comme tu mentionnais, c'est moins cher que la Polestar 2. Donc, c'est difficile. Moins cher de quoi? 5 000 $
c'est
environ?
C'est exactement 5 000 $ Et on utilise la même plateforme.
C'est difficile à justifier. J'ose croire que l'équipement va être peut-être un peu différent, mais...
Tu veux couper où? Je me demande.
J'ai de la misère à le visualiser aussi, et ça donne pas de chance à la nouvelle marque Polestar. Là.
Ouais,
c'est quasiment de la concurrence déloyale de la part de ta soeur, de ton frère ou ta soeur, finalement, parce que c'est ça, Volvo et Polestar, là, ils ont les mêmes parents et ils ont les mêmes composantes. Là.
En fait, c'est un peu... Imaginez que Acura et Honda lancent un produit comparable utilisant exactement la même technologie, qu'on a un équipement comparable, mais que la Honda est plus attrayante, plus polyvalente, aussi bien équipée et moins chère.
Avec un réseau de distribution qui est déjà là.
Oui, puis c'est ça. Parce que je ne peux même pas comparer ça avec Acura, qui est établi depuis longtemps. Ouais. Le Polestar, on commence.
Ouais.
En fait, le parallèle aurait dû être plus juste avec Genesis et Hyundai.
Ouais.
Parce que Genesis, on commence, on essaie de percer le marché. Alors, imaginez qu'on arrive avec deux produits techniquement comparable, le produit Hyundai est moins cher et plus polyvalent, rejoint une clientèle plus large parce que c'est un VUS et non pas une berline, et se vend moins cher. Comment on va réussir à vendre le produit Genesis? Alors, il va falloir que Polestar travaille très fort parce que je pense que le XC40 Recharge à 335 km d'autonomie annoncée, c'est un véhicule qui, pour 65 000 $ risque de connaître pas mal de succès. On s'en fait énormément parler et on le sait, tout le monde veut conduire un VUS maintenant. Alors, je pense que le succès pour ce produit-là chez nous est assuré. Il restera à voir si on va être capable de suffire à la demande parce que, bon, faut qu'il y en aille chez les concessionnaires. Et le XC40 connaît un succès relativement bon depuis son arrivée. C'est un produit que moi, j'aime bien. Alors, j'ai bien hâte de voir, mais il faut comprendre
qui se démarque bien là, des trois Allemands. Là, donc,
Puis justement...
Franchement, c'est pas un produit que je serais gêné de louer. Là.
Ah, absolument pas. Et justement, c'est tellement difficile de déloger les Allemands dans ce secteur-là et même d'aller jouer dans la table des Japonais parce que même le Lexus NX et l'Acura RDX se vendent très bien. Alors, Volvo a réussi quelque chose quand même de bien avec le XC40. Mais comme le XC40 et la Polestar 2 utilisent exactement la même plateforme, la même motorisation, 402 chevaux et même le même système d'exploitation Android propulsé par Google, ça c'est intéressant aussi. Les deux ont ça. Comment on va vendre la Polestar 2? Alors, j'ai bien hâte de voir, mais en attendant, le XC40 Recharge, ça va être un succès.
Donc, en bon français, on dirait que c'est pas fair.
C'est exactement. J'avais un véhicule de la semaine, tu vas nous parler d'une Hyundai, justement, qui a roulé cette semaine.
Hyundai Ioniq, hein? On se rappelle, le modèle est décliné en version hybride, hybride rechargeable et électrique. Ouais. Elle est un peu dans l'ombre du Kona, hein? Si tu veux, mon ami Antoine. Et en la conduisant, j'ai un peu compris pourquoi. Bon, premièrement, son autonomie est quand même pas mal moins grande. On parle du modèle et 100% électrique. C'est celle-là que j'ai conduite. Et c'est ça. En la conduisant, j'ai compris pourquoi elle était dans l'ombre justement du Kona qui lui est franchement beaucoup plus populaire. Mm-hmm. On est à seulement, et je le mets en guillemets, 274 km et alors que le Kona, on est une miette en haut du 400.
On parle pas d'un véhicule qui coûte le même prix non plus.
Non, mais en même temps, Hyundai Ioniq en version électrique, on est à 41 500 $. Il n'y a pas une marge si grande vers le Kona. Mais Même dans sa version de base.
Alors, parce que tu as plusieurs déclinaisons de l'Ioniq, je n'ai pas la grille de chiffres devant moi, mais l'échelle de prix est beaucoup plus basse que celle du Kona électrique, là, ça c'est clair.
Mais dans la version électrique, on est à 41 500.
Plus taxes, moins 13 000 $ de crédit. Voilà. Donc, on arrive à une voiture de 30 32 000, 33 000 avec taxes incluses. Oui. C'est quand même raisonnable.
Elle a moins d'autonomie que le Kona, mais en même temps, 274 km, là, t'as le temps de t'es pas obligé de la recharger à tous les jours. Bon, là, voilà. Donc,
pour bien des
ça
gens,
suffit amplement, même comme véhicule principal, pour certaines familles, pour certains foyers, c'est amplement suffisant.
Citadine, par contre.
Oui, c'est ça, parce que j'ai trouvé que c'était très sensible aux vents latéraux là, sur autoroute.
Il y a des pneus de bicyclette en même temps, voilà, ça vacille un peu.
C'est sûr que ça ne l'aide pas et ça cogne. C'est pas les sièges ont un bon confort, mais quand on frappe un trou, puis bon, on sait qu'il y en a, ça cogne, c'est pas très confortable.
Dis le gars qui vient d'aller ranger sa Chrysler Newport 73. C'est sûr que si tu compares les deux, Germain, il y a une nuance.
Oui, c'est sûr, mais c'était pas ma voiture que je la comparais. Donc, c'est ça. T'as utilisé le mot juste, c'est une citadine, mais pour le reste, effectivement, même si elle a moins d'autonomie que le Kona, j'aurais pas de problème avec ça. Et je pense que beaucoup de gens qui attendent un Kona devraient peut-être jeter un œil à la Ioniq électrique. Là.
Ben moi, c'est un véhicule que je recommande souvent parce que on pose souvent la question, qu'est-ce qui existe comme véhicule électrique quand j'ai un budget relativement limité? Et si tu n'as pas besoin de 400-425 km d'autonomie et que tu cherches une voiture efficace, qui a prouvé sa fiabilité, si on s'entend là-dessus, mm-hmm, qui est bien garantie aussi, moi, je considère que c'est un meilleur achat qu'une Leaf. Je parle pas de la Leaf Plus, mais de la Leaf régulière.
Ouais.
Garde, tu as une autonomie qui est un peu supérieure à celle de la Leaf. Tu as une garantie qui est plus longue. Tu as une voiture qui a un look sympathique, capable d'embarquer quatre personnes.
Parlant de son look, rapidement, on a l'impression d'avoir une grande lunette arrière qui descend un peu.
Oui, mais la visibilité, c'est moyen.
C'est moyen et
il n'y a pas d'essuie-glace.
Voilà. Donc ça ne l'aide vraiment pas.
Non,
là,
ça, c'est
parce qu'on a quand même une grande surface à l'arrière, mais une grande surface qui reste sale en hiver, c'est pas génial.
On a décidé de ne pas mettre des essuie-glaces pour une question aérodynamique. Puis bon.
Ouais,
mais moi, je recommande cette voiture-là haut la main, bien plus que la hybride rechargeable, parce que ça donne pas grand-chose. L'autonomie électrique est ridicule, puis je trouve que c'est un entre-deux. Soit vous achetez l'hybride régulière ou vous achetez la toute électrique. Entre les deux, je trouve que c'est un compromis qui est pas assez intéressant.
Bon, voilà, c'est dit. De ton côté, Cadillac CT4V.
Ouais, alors j'ai roulé deux véhicules cette semaine qui se comparent en quelque sorte. Bon, il y en en a une qui, évidemment, est plus chère que l'autre. J'ai roulé la Cadillac CT4V, Cadillac qui fait un retour avec ça, et la Mercedes AMG CLA 45. La CLA, je vous le dis tout de suite, son prix d'entrée frise les 60 000 $, 58 000 et des poussières.
Et c'est très facile de cocher les options une après l'autre.
Effectivement,
pour faire
alors le véhicule d'essai qu'on avait était à 77 000, ça n'avait pas de bon sens. Alors, beaucoup d'options, souvent qui ne sont pas nécessaires, mais ça en faisait un véhicule quand même assez charmant. Je vais d'abord parler de la Cadillac CT4 parce que autant la CT5 de Cadillac en version V m'avait impressionné par son confort, ses performances, son look que j'adore. J'ai vraiment aimé la conduite de cette auto-là et j'espère que Cadillac va être capable de la mettre de l'avant, la version CT5V, parce que c'est un véhicule méconnu qui gagne à être connu.
Pour le moment, on ne peut pas dire que c'est fait, là.
Non, j'en ai croisé quelques-unes sur la route, ouais. Mais bon, on s'entend que ce n'est pas un marché.
C'est des puristes qui l'avaient réservé depuis longtemps. Puis
alors, j'ai
tout,
hâte de
là.
Voir si on va réussir à en vendre et surtout à faire perdurer les voitures chez Cadillac. Mais si on le fait, c'est grâce à cette voiture-là. C'est pas grâce à la CT4, parce que la CT4, j'ai trouvé qu'on avait fait le travail à moitié. D'abord, tu ouvres la porte, puis c'est un peu décevant de voir la présentation intérieure. Je pourrais peut-être même dire la même chose de la CT5, parce que c'est pas quelque chose d'ultra moderne, mais j'ai trouvé que c'était encore plus ordinaire à bord de la CT4. Et c'est bien évident que quand tu regardes une CT4, bien, c'est une ATS qu'on a redessinée partiellement. Et alors, de prendre un véhicule qu'on avait lancé en 2013, qu'on a laissé tomber il y a quelques années et qu'on ramène après 2 ans d'absence avec une même carrosserie, mais avec un museau puis une partie arrière retravaillée, déjà, c'est un exercice que je trouve plus ou moins efficace, surtout quand tu veux relancer des voitures chez une marque comme Cadillac. Mais là, on a mis sous le capot de cette CT4V-là un 4 cylindres 2,7 litres turbo compressé, moteur qu'on ne retrouve pas ailleurs dans la gamme Cadillac ou même chez GM. Est-ce qu'on le verra dans le futur? Je ne le sais pas. Un moteur qui a du souffle, et s'il y a un point intéressant, c'est ça, 325 chevaux, ça a du nerf. Mais au niveau du comportement, j'ai trouvé qu'on l'avait peut-être un peu échappé. C'est bruyant, c'est vraiment pas confortable, c'est très, très ferme, tu fais pas de compromis, ça manque de raffinement, et j'ai trouvé ça un peu décevant. Honnêtement, là, c'est pas une bagnole qui m'a impressionné. Les pneus, c'est ultra mince, ça tape dur. Je comprends qu'on est dans une version de performance, mais il y a des limites à vouloir souffrir. Alors, moi, j'ai vraiment pas aimé cette approche-là. Je trouve qu'on aurait dû aller offrir un peu plus de confort au détriment, peut-être d'une performance ou de jouer un peu plus avec les différents modes de conduite pour pouvoir offrir une plage plus grande de façon à ce que la voiture ait différentes personnalités en fonction du mode de conduite que tu vas adopter. On en a des modes de conduite, mais je ne peux pas dire que la différence est flagrante et on le paye très cher en confort. En plus de ça, j'ai trouvé qu'à 53-54 000 $ pour cette CT4V-là, c'était très cher payé pour une voiture qui me déçoit par rapport à la CT5V qui, pour même pas 10 000 $ de plus, va t'offrir un niveau de performance, de confort et de raffinement qui est complètement différent. Et ce qui est ironique, c'est qu'on utilise la même plateforme pour les deux véhicules. Alors, autant la CT5V est une voiture qui, moi, m'a impressionné, autant la CT4V m'a laissé sur son appétit.
L'exécution est moins bonne, là.
Voilà. Et là, ensuite, après avoir conduit la CT4, je suis passé dans la CLA, qui est une rivale directe. Plus dans sa version 35 AMG que 45.
Parce que dans sa version 45, c'est radical. Là.
Bon, alors, c'est la CLA 35 AMG va offrir 302 chevaux de puissance contre 325 pour la CT4V. Et on passe à 382 chevaux avec la CLA 45. C'est ce que j'ai conduit
dans
cette semaine.
Dans une petite bagnole, là. Bon, c'est très condensé.
On
là.
S'entend, là, était 20 000 $ de plus que la CT4V. Donc, c'est dur de faire le parallèle. Mais si tu prends une version de base versus une CT4V de base, c'est à peu près 10 000 $ d'écart, mais pour une conduite qui n'a rien à voir. Alors, Mercedes-Benz, il y a bien des véhicules qui m'ont déçu ces dernières années. Là. C'est assemblé à la hâte, ça craque. Il y a bien des versions AMG qui m'ont déçu parce que les configurations de suspension ne sont pas à la hauteur. Là, je me rappelle d'avoir conduit une C43 qui m'avait déçu, une GLC 43 que j'ai trouvé épouvantable. Mais dans le cas de la CLA 45, je peux te dire que c'est une voiture super tripante. Non seulement très élégante. Je trouve qu'on a vraiment resserré les boutons, les boulons. C'est une voiture qui est très solide. Il n'y a pas de craquement là-dedans. C'est amusant à conduire. Ça répond au doigt et à l'œil. La présentation intérieure, surtout si tu compares avec la Cadillac, on est dans un monde complètement ailleurs. Écoute, c'est incroyable comment on a travaillé pour faire de l'habitacle de la CLA une voiture moderne, audacieuse. Alors, moi, j'ai vraiment, vraiment aimé cette voiture-là. Alors, beaucoup de plaisir au volant de la CLA 45 AMG, mais vraiment déçu de la CT4, surtout en comparaison avec la CT5.